Et le journal de la rédaction vous est présenté par Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Dès le début de ce journal, nous irons en Afghanistan, cible d'une nouvelle campagne de terreur menée par les talibans. Ils ont frappé par deux fois ce matin, faisant plus de 60 morts et des dizaines de blessés. Situation suivie pour nous depuis Kaboul par Sonia Ghezali. En Turquie, ouverture du procès de 17 membres de la rédaction de Cumhuriyet, le dernier quotidien d'opposition turque harcelé par la justice. Nous y reviendrons avec Marie-Pierre Véro. Emmanuel Macron, lui, prend l'initiative pour amener la paix en Libye. Il recevra demain les deux dirigeants, le politique et le militaire, qui s'y dispute le pouvoir. Nous entendrons notre invité, le spécialiste de la Libye, Hasni Abidi. Dans l'agenda du chef de l'État, il faut aussi trouver du temps pour recevoir les associations de lutte contre le sida, association qui dénonçait son absence hier à l'ouverture de la conférence internationale de Paris. C'est un dossier suivi pour nous par Aurélie Kiefer. Et puis des militants d'En Marche qui attaquent leur parti en justice pour déni de démocratie interne. C'est ce que nous expliquera Fiona Mogadam. Une voiture piégée qui fonce sur un bus du gouvernement. La suite, ce sont des scènes de panique, d'horreur auxquelles les habitants de Kaboul ne parviendront jamais à s'habituer. Tôt ce matin, c'est donc un quartier chiite de la capitale afghane qui a été éventré par l'attaque suicide rapidement revendiquée par les talibans. Sonia Ghezali est la correspondante de Radio France Internationale à Kaboul.
Une épaisse fumée noire dans le ciel, des arbres calcinés sur le trottoir, des échoppes éventrées. Les chaînes de télévision locales diffusent ces vidéos prises par les premiers témoins sur place, alors que les ambulances se défilent, sirènes hurlantes. Il est un peu moins de 7h heure locale, une voiture vient d'exploser au premier barrage tenu par des gardes armés de la résidence d'un leader politique de la communauté Hazara, la minorité chiite du pays. Son conducteur a lancé le véhicule contre un bus transportant des employés du ministère des Mines et du Pétrole. Si les soupçons se sont portés dans un premier temps sur l'organisation État islamique qui s'en prend régulièrement à la minorité religieuse, les talibans ont rapidement revendiqué l'attaque. Plus de 40% du territoire est disputé ou sous le contrôle des insurgés. Ces derniers ont intensifié leurs attaques ces derniers jours. Dans le sud à Kandahar, ils sont accusés d'avoir enlevé hier plus de 70 villageois connus pour leur soutien au gouvernement central de Kaboul. Mais cet attentat intervient dans un quartier de la minorité chiite, Hazara, visé par une attaque meurtrière il y a un an, jour pour jour. Des membres de cette minorité religieuse défilaient dans la capitale afghane contre le tracé d'une ligne à haute tension qui contournait ces terres dans le centre de l'Afghanistan. Le cortège avait été frappé par l'organisation État islamique qui signait ainsi son premier attentat au cœur de Kaboul. Depuis, le groupe terroriste ne cesse de viser la communauté Hazara dans des attaques ciblées contre ses mosquées.
Sonia Ghezali à Kaboul, donc, pour cette première attaque qui a eu lieu tôt ce matin, revendiquée par les talibans qui sont également à l'origine d'une autre attaque, je vous le disais, voilà, qui commence à ressembler à une nouvelle campagne de terreur lancée sur l'Afghanistan. Cette attaque, elle a eu lieu dans un hôpital du district de la province de Gore, dans le centre de l'Afghanistan. Les talibans sont entrés dans le bâtiment, ont tué 35 personnes, selon le porte-parole de la présidence afghane, qui parle d'un crime contre l'humanité. Une façon particulièrement ironique de fêter la journée de la presse. En Turquie, ce matin, s'est ouvert à Istanbul le procès de 17 personnes. Tous sont membres de l'équipe du journal Cumhuriyet, ce quotidien turc qui est l'un des derniers à tenir debout, indépendant, face au régime répressif du président Erdogan. Bonjour Marie-Pierre Véro.
Bonjour Camille.
Le journalisme n'est pas un crime, c'est le slogan qu'on a pu entendre devant le palais de justice d'Istanbul tout à l'heure, sauf que c'est loin d'être une évidence dans la Turquie d'aujourd'hui.
Ah oui, puisqu'ils sont plus de 150 journalistes derrière les barreaux. Et le procès de Cumhuriyet est emblématique, considéré comme celui du journalisme en Turquie. Aussi ancien que la République, fondée en 1924, Cumhuriyet est reconnu pour ses enquêtes, souvent à charge contre le pouvoir. Son ton critique, ses caricatures. Dans le box des accusés, de grandes plumes, Kadri Gürsel, Ahmet Sik, Murat Sabuncu ou encore le caricaturiste Moussa Kart. Certains sont en détention depuis plusieurs mois. C'est le cas du rédacteur en chef du supplément livre du quotidien Turan Gunay, âgé de 71 ans. Leur procès devrait durer toute la semaine. Ils encourent jusqu'à 43 ans de prison, accusés notamment de soutenir des organisations terroristes, le mouvement du prédicateur Gulen, dont Erdogan voit la main derrière le coup d'État raté de juillet dernier, ou le parti kurde du PKK, des charges inexistantes ou falsifiées selon la défense, qui dénonce un procès politique. La semaine sera décisive, estime Can Dündar, l'ancien rédacteur en chef de Cumhuriyet. Il vit aujourd'hui en exil à l'Allemagne. Il est poursuivi après avoir publié un article selon lequel Ankara livrait des des armes à des islamistes en Syrie et sera donc jugé par contumace. Pour lui, Cumhuriyet, c'est l'un des derniers bastions de la presse libre en Turquie. Si nous le perdons, ajoute Dündar, nous aurons perdu la liberté de la presse. Reporters sans frontières appelle d'ailleurs la France à faire davantage pression sur le régime. C'est au nom de la discrétion de Paris quand Angela Merkel n'hésite-t-elle pas à faire part de sa réprobation. Ce matin, le quotidien Libération ouvre ses colonnes à plusieurs journalistes dont l'un raconte comment le gouvernement rachète, à plusieurs journalistes de Cumhuriyet bien sûr, hein, dans leur raconte comment le gouvernement Erdogan rachète et fait racheter des médias entiers par des hommes d'affaires. 70% des journaux et chaînes de télévision sont des organes d'Erdogan, écrit Aydın Engin. Les 30% restants sont devenus ce que l'on appelle en Turquie des médias pingouins, en référence à ces médias qui diffusaient des documentaires sur les pingouins à l'heure où grondait la révolte Gezi. Oui, décidément, le procès de Cumhuriyet est bien celui de la liberté de la presse.
Marie-Pierre Véraud, merci pour ces précisions. La quête d'une désescalade au Proche-Orient après une semaine d'affrontements meurtriers autour de l'esplanade des mosquées. La diplomatie tente de ramener le calme avec l'émissaire américain pour le conflit israélo-palestinien, Jason Greenblatt, qui est arrivé ce matin à Jérusalem pour tenter de convaincre les autorités israéliennes de trouver une solution sur ces détecteurs de métaux qui avaient été installés la semaine dernière à l'entrée du lieu saint. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour évoquer le dossier à New York ce soir. La France et Emmanuel Macron prennent l'initiative pour tenter de solder la crise en Libye. Le château de la Selle Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, va être le théâtre demain d'une rencontre entre les deux hommes qui se disputent le pouvoir dans ce pays déchiré par des années de guerre et convoité, on le sait, par Daesh. D'un côté de la table, il y aura donc Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement, dit d'Union nationale, gouvernement soutenu par les Occidentaux. Et de l'autre, il y aura le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui détient la région de Benghazi avec ses forces armées. Alors pour parler de ce dossier libyen, nous sommes en ligne avec Hasni Abidi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous dirigez le Centre d'études sur la Méditerranée et le monde arabe à Genève. Si vous le voulez bien, avant d'évoquer les enjeux de cette réunion de demain, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation territoriale et politique en Libye? C'est quoi l'état des forces en présence entre Haftar et Sarraj?
C'est une situation compliquée, mais en pleine évolution. Vous avez deux gouvernements à l'ouest, le gouvernement du Salut National, mais le gouvernement aussi donc de Monsieur Sarraj, que vous avez cité, le seul qui a une légitimité internationale. Vous avez un troisième gouvernement qui est à l'est, qui est à Tobrouk, avec le Parlement. Les trois entités, leur mandat a expiré, sauf que nous avons deux parlements encore, et vous avez aussi deux commandements de l'armée, avec un ministère d'économie et des entreprises de pétrole et la Banque centrale, qui sont divisées entre l'Est et l'Ouest, et les trois entités ne contrôlent pas la totalité du territoire libyen.
En tout cas, là, on a deux dirigeants, donc le maréchal Haftar, Sarraj pour le gouvernement d'Union nationale. Les deux se sont déjà rencontrés ces derniers mois?
Oui, il y a une rencontre très brève en Libye, à Marrakech, et la deuxième rencontre récemment à Abu Dhabi, une rencontre furtive qui n'a pas débouché sur grand-chose, mais la rencontre de Paris, c'est la première. Elle est importante parce que d'abord, elle est dans un pays européen, et elle est importante aussi parce qu'il ne s'agira pas, probablement, en tout cas selon les déclarations de certains Libyens, d'une simple rencontre de courtoisie au protocolaire, mais plutôt pour évoquer les sorties de crise en Libye.
Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement, et qu'est-ce que Emmanuel Macron, qui semble avoir pris l'initiative, peut-être avec un peu de précipitation, lui en attend à votre avis?
D'abord, le président français a remis en cause, on dit terme bien sûr amicaux, l'intervention française en Libye, la manière dont a été gérée l'intervention, mais aussi la transition en Libye, c'est déjà un bon point. Il entretient d'excellentes relations avec Sarraj, bien sûr, mais aussi il a des bonnes relations avec le parrain, le sponsor de Monsieur Haftar, donc le général Khalifa Haftar, qui contrôle Benghazi, mais aussi une autre partie à l'est libyen. Et on sait que Abu Dhabi joue un rôle très important avec le militaire.
Mais alors, Hasni Abidi, je parlais à l'instant de précipitation, excusez-moi, mais est-ce que il n'y a pas eu un peu de malentendu dans cette annonce un peu inattendue de la part de la présidence française? L'Italie, par exemple, qui est forcément en pointe sur ce dossier avec la question migratoire qui est très liée au chaos libyen, semble avoir un peu du mal à encaisser cette initiative française. Il y a une précipitation, à votre avis, de la part du président, notamment avec l'arrière-plan migratoire?
Oui, un empressement de la part de Macron, c'est indéniable. L'Italie a essayé d'organiser un sommet très important avec les Américains. Ces derniers n'ont pas accepté la proposition italienne. Ils sont restés en retrait. Le président Macron a le soutien officiel de la communauté européenne, mais il reste un problème, c'est les pays voisins, hein, surtout l'Algérie, qui suivent un petit peu cet empressement et ce volontarisme de la part du président Macron dans un dossier très épineux qui concerne surtout les pays voisins, mais parce que le président français est soucieux de deux choses. Mmh. La première, c'est le retour des djihadistes, et on sait que la Libye pourrait être, en certaines zones, pourrait être des zones de repli pour les djihadistes européens et français. Oui. La deuxième, c'est bien sûr la crise migratoire très importante, et le président français, en tout cas la France, est consciente que sans une issue politique globale, il est très difficile de faire face à la crise migratoire.
Voilà, beaucoup d'enjeux donc autour de cette rencontre qui aura lieu demain à la Celle Saint-Cloud près de Paris. Merci beaucoup Asni Abidi d'avoir accepté notre invitation donc pour le journal de France Culture. On le voit avec le dossier libyen, l'agenda présidentiel d'Emmanuel Macron n'en finit pas de se charger, surtout quand il faut réparer des maladresses politiques. En l'occurrence, c'est le cas avec cette rencontre cet après-midi à l'Élysée, où le président de la République recevra les associations de lutte contre le SIDA, AIDS et SIDAction notamment. Rencontre qui n'était pas prévue, qui a été rajoutée après le tollé d'hier. À la conférence mondiale de recherche contre le VIH qui s'est ouverte à Paris, l'absence du chef de l'État a été vivement critiquée. Bonjour Aurélie Kiefer.
Bonjour.
Et puisqu'elles sont finalement reçues, les ONG ont un message clair à faire passer à Emmanuel Macron, la France ne doit pas se désengager financièrement de la lutte contre l'épidémie.
Ces dernières années, la France se désengage à coups de petits calculs comptables, écrivent dans un communiqué commun les associations ACT UP, AIDE et Coalition Plus. Et elles égrènent les exemples. Retard de paiement de la contribution française au Fonds mondial contre le SIDA, réduction de sa contribution à United et une coupe de 158 millions d'euros pour l'aide publique au développement pour 2017. Les associations appellent Emmanuel Macron à s'engager et à dévoiler ses ambitions pour vaincre le VIH, car le moindre relâchement dans la lutte contre le SIDA se paye par des vies perdues. Marina Karmochkine, médecin spécialiste liste du VIH à l'hôpital européen Georges Pompidou, était l'invitée de Lucas Manget dans les matins de France Culture. Elle confirme que malgré le chemin parcouru, rien n'est acquis.
La Roumanie est un pays qui n'est pas extrêmement riche et qui bénéficiait du Fonds mondial. En 2010, en Roumanie, il y avait 4,9% des toxicomanes qui étaient infectés par le VIH. Là, on a relâché la pression. Le Fonds mondial a dit, la Roumanie, maintenant, vous allez vous débrouiller tout seul. Et finalement, la Roumanie n'a rien fait. Donc, il n'y a plus eu d'accès des Roumains à tous les moyens de prévention, en particulier les seringues à usage unique. Eh bien, on est passé en 3 ans, de 2010 à 2013, à 45% des toxicomanes qui se sont réinfectés. Ça veut dire qu'il faut très peu de temps.
Et ça va extrêmement vite.
Les associations redoutent d'autant plus un désengagement français que les États-Unis, premier contributeur de la lutte contre le sida, envisagent de sérieuses coupes budgétaires. Or, il manque déjà 7 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs que se sont fixés les Nations Unies.
Aurélie Kiefer, en marge de cette conférence mondiale de Paris, il y a un cas qui donne de l'espoir aux chercheurs, celui de cette fillette d'Afrique du Sud, née séropositive. Elle vit depuis 9 ans en bonne santé, sans prendre aucun médicament. Son traitement avait été interrompu après les premiers mois de sa vie. Il s'agit du 3e cas seulement de rémission sans traitement à vie constaté chez un enfant. Ils sont en marche vers le tribunal. Un groupe de militants du parti de la majorité macronienne assigne sa direction en justice demain en référé. Il dénonce un manque de démocratie interne dans le parti, contestation sur la forme et dans la manière dont les nouveaux statuts de la République en marche ont été soumis au vote en ligne qui commence aujourd'hui. On en parle avec vous. Bonjour Fiona Mogadam.
Bonjour.
Les militants qui ont déposé ce recours, ils ne seraient qu'une trentaine, mais ils attaquent donc sur cette horizontalité démocratique qui avait été promise par le nouveau parti et qui ne semble pas vraiment au rendez-vous.
Oui, et pour attaquer ces statuts, cette trentaine de marcheurs se base, vous l'avez dit Camille, sur un vice de forme. Le délai de convocation du scrutin n'aurait pas été respecté. Les marcheurs n'approuvent pas non plus l'urgence dans laquelle se fait ce vote. Ah, mais le problème ici, c'est donc bien le fond et ces statuts qui n'impliquent pas suffisamment les adhérents, selon ces marcheurs, contrairement à ce que prône le parti. Rémi Bouton est animateur en marge du comité local de Denfert-Rochereau. Il fait partie des marcheurs qui ont déposé le référé.
On est dans un mouvement progressiste, démocratique, qui est formidable, hein, qu'on soutient, qu'on a tous soutenu. Et en même temps, on nous propose en plein cœur de l'été, avec extrêmement peu de temps de lecture, des statuts dans lesquels la place des adhérents est extrêmement étroite et sans nous permettre de débattre nous aussi de ce qu'on voudrait comme mouvement et comme gouvernance. Il n'y a pas de démocratie dans le modèle actuel. On nous dit, vous faites ce que vous voulez dans vos comités, c'est super, amusez-vous, faites des tas de trucs. Et si c'est bien, on les fera remonter. Mais on ne nous donne pas les moyens à nous, adhérents, d'élire nos instances directrices, éventuellement de voter des budgets, éventuellement de participer au choix des investitures.
Grâce à leur action, ces marcheurs mécontents espèrent pousser la direction à rediscuter les statuts. Ce n'est pas la première fois que la grogne sévit au sein du parti à propos du manque de démocratie. Il y a 2 semaines, un collectif de marcheurs en colère a déjà été reçu au QG parisien. En marche dit ce midi assumer ces statuts que plusieurs milliers de retours ont été reçus au début du mois et intégrés au texte définitif. Mais que la contestation est finalement une chose normale comme dans tout mouvement.
Fiona Mogadam, merci à vous. Avant de refermer ce journal, nous saluons la disparition de la philosophe et psychanalyste Anne Dufour-Montel, décédée samedi à l'âge de 53 ans. Elle s'est noyée en Méditerranée en voulant secourir des enfants. Anne Dufour-Montel, qui était souvent venue dans les studios de France Culture pour évoquer ses travaux, que ce soit pour faire l'éloge du risque ou plaider la puissance de la douceur. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, la saluait hier. Une femme lumineuse tant par ses écrits que par sa personnalité. Un ciel gris et pluvieux des Pyrénées à la frontière belge, des éclaircies à l'ouest et du soleil en Provence. Cet après-midi, comptait une 20 degrés sur les 3/4 du pays, des températures estivales jusqu'à 28 degrés seulement pour les régions méditerranéennes. Ce journal était réalisé par Jean-François Braun. À tout à l'heure 18h pour un prochain rendez-vous avec l'info sur France Culture.